Radio Okapi, regarde sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regarde sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la toute la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la toute la semaine, nous recevons ici au studio Madame Faïda Mwangilwa, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre. Bonjour Madame Faïda Mwangilwa.
Bonjour Monsieur Guy.
En ligne, Charles Kipingani, il est journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant à Matadi dans la province du Congo central. Bonjour Charles Kipingani.
Bonjour Guimanté, bonjour à nos collaborateurs et merci encore d'être là pour la première fois.
Et aussi en ligne, depuis la ville de Liège en Belgique, Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Bonjour professeur Bob Kabamba.
Bonjour Monsieur Guy Batté, bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Okapi, ainsi qu'à mes co-débatteurs du jour. Merci.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Charles Kipingani, il est journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant à Matadi dans la province du Congo central. Madame Faïda Mwangilwa, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Bob Kabamba, il est politologue, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir riposte contre la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC, problématique des embouteillages à Kinshasa et dans certaines villes de la RDC. Et enfin, RDC, la revanche du sol sur les sous-sols, encore utopique avec une agriculture non mécanisée. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition des lois sur les référendums. En effet, l'Assemblée nationale a adopté mardi 9 juin dans la soirée la proposition de loi portant organisation du référendum en RDC. Initiée par le député Paul Gaspard Ngonankoy, le texte a été approuvé par 348 députés sur 351 votants en l'absence des élus de l'opposition qui ont décidé de boycotter les travaux relatifs à cette loi dénonçant un coup d'État institutionnel. Ce texte encadre la convocation du référendum par le président de la République, son organisation par la CENI, ainsi que les règles des campagnes, des dépouillements et des contentieux. Il prévoit également la possibilité d'une assemblée constituante élargie en cas de projet de nouvelle constitution. Outre les sénateurs et les députés nationaux, cette instance pourrait inclure les députés provinciaux, les gouverneurs des provinces et les conseillers municipaux. Charles Kipingani, que pensez-vous de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant organisation du référendum en RDC?
Merci beaucoup une fois de plus, Guimati. D'abord, c'est pour ma première fois encore de participer à cette émission en dehors des tribunes de la presse, qui est notre émission traditionnelle. J'aimerais d'abord dire que la chose n'est pas du tout mauvaise, cette adoption de projet de loi. Mais il est intéressant de souligner un peu la crédibilité de ces élites qui parlent au nom de cette population. Et faut-il rappeler encore qu'ils ont été élus sur base de cette même constitution que nous sommes en train de contester aujourd'hui. Est-ce que ces députés ont réellement une bonne crédibilité ou entretiennent-ils de bonnes relations avec leurs électeurs? Il faut dès lors commencer à émettre un doute à cause des relations qui semblent ne pas être bon fixe entre les élites qui parlent aujourd'hui au nom de la population et leurs électeurs auprès de leurs bases respectives. Nous connaissons bien la tradition que les élites se rendent auprès de leurs électeurs pour recueillir leur point de vue par rapport à ce qu'ils font comme travail au niveau de l'hémicycle, ce qui ne se fait presque pas. Il y a des élites qu'on a vues seulement le jour de son élection. Et donc, cela déjà pose problème par rapport à la crédibilité, je ne parle pas de la légitimité, mais de la crédibilité de ces élites vis-à-vis de leur population, de leurs électeurs. Et donc, dans les cas d'espèce, il faut, à mon avis, changer déjà le mode de consultation, s'il faut engager peut-être, par exemple, une consultation ou des consultations populaires qui soient couvertes par une ordonnance présidentielle, cela dépend du pouvoir organisateur. Mais avec la formule de ces élites, je crois que la procédure semble ne pas être bonne parce que nous connaissons ce qui s'est passé en 2005 lorsqu'on nous a fait adopter le référendum de l'actuelle constitution. Jean-Pierre Bemba en connaissait plus. Donc déjà, à partir de là, il y a des gens qui avaient voté cette constitution, ce référendum, qui aujourd'hui ne savent pas pourquoi ils avaient voté ça. Donc on n'avait même pas vulgarisé. Et maintenant que ça passe par les élites, oui, mais continuons encore à mettre en cause cette collaboration qui existe entre ces élites et leurs électeurs. Et donc, ça va poser problème à partir de ces mauvais décollages si nous ne procédons pas à de bonnes mesures pour parvenir à ce que nous voulons atteindre comme objectif. Je vois un avenir sombre, non seulement de ce projet, mais aussi de la République qui sera mise en danger.
Merci, merci Charles Kipingani. Madame Faïda Mongilois, présenté par ses promoteurs comme un texte destiné à combler un vide juridique hérité de la transition, cette réforme est dénoncée par les opposants comme une porte ouverte à un changement de la Constitution. Quel est votre point de vue, justement, par rapport à ces débats qui suscitent cette proposition de loi?
Merci beaucoup. Je pense que c'est une question qui intéresse tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde parle de cette proposition de loi sur le référendum, mais on se pose une question. On répond à quelle urgence lorsqu'on doit aller au référendum? On répond à quelle urgence? Mais aussi, je me dis, c'est un problème de temps. Si cette proposition était introduite en début du mandat de notre chef de l'État, au premier mandat en 2018, tout au début 2019, je vous dis, ça ne poserait peut-être pas un problème. Lorsqu'il y a eu des divergences entre eux dans leur alliance, on pouvait proposer une telle loi. Peut-être que ça pouvait passer sans beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, à moins de 2 ans de la tenue des élections prévues en 2028, lesquelles élections seront, en tout cas, nous sommes au deuxième et dernier mandat de notre chef de l'État, ça pose un problème. Ça pose des suspicions. Peut-être que les gens ne pouvaient pas y penser vers les années 2019-2020. De deux, je rappelle ici que c'est la première fois avec l'actuel chef de l'État que le pays a connu la passation pacifique de pouvoir. Depuis l'accession de ce pays à l'indépendance en 1960, on vit toujours des coups d'État, des rébellions et des quoi. La première fois qu'il y a une passation pacifique de pouvoir. Mais de deux, la première fois d'avoir un opposant de l'opposition non armée passer au pouvoir. Et ça nous a donné beaucoup d'espoir. Je rappelle ici, sans pour autant l'idée de me vanter, je suis parmi les pionnières de l'IDPS. J'étais encore trop jeune et je voulais les changements dans ce pays. On était des étudiantes, on a fait des marches, on a perdu des pieds. J'ai fait plus de 3 mois sans suivre les cours après une marche. Et quand je vois aujourd'hui que c'est mon parti de l'enfance, de la jeunesse, je ne fais plus de politique aujourd'hui, qui aujourd'hui se retrouve devant la barre, je me dis, mon Dieu, c'est quoi? Parce que nous, on s'est basé sur le principe. Vous voyez, quand on appelait à radicaux, ça te dit quelque chose. On a évolué dans ça. Et jusqu'aujourd'hui, le peu de valeur que nous défendons dans notre société, nous l'avons tiré de là. Donc, moi, je crois que il faut nous éviter des problèmes. Déjà, nous avons des problèmes avec la guerre, avec tout. On a déjà des problèmes. Il ne faut pas en ajouter d'autres. Et l'opposition politique aujourd'hui doit aussi voir comment ne pas aller plus loin pour ne pas donner raison à d'autres organisations ou à d'autres qui nous font la guerre. Moi, je crois qu'il y a lieu de se mettre ensemble comme nation autour des idées fondamentales.
Merci, professeur Bokabamba. Cette proposition de loi distingue quatre types de référendums, à savoir la révision de la Constitution, le transfert de la capitale, les questions liées aux frontières et à l'étendue du territoire national, ainsi que les matières non prévues par la Constitution. Et c'est cette dernière phrase qui semble susciter les débats. Comment vous expliquez cela, professeur Bokabamba?
Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour la question. Premièrement, ce qu'il faut se rendre bien compte, c'est que de quoi est-ce qu'on est en train de parler, c'est uniquement ici, l'objectif est d'essayer de trouver des mécanismes pour ne pas casser ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel établi. Alors, parce que on sait très bien qu'au niveau international, on a mis un veto que le régime de Kinshasa de Tshisekedi ne pouvait pas casser l'ordre constitutionnel, parce que s'il casse l'ordre constitutionnel, cela veut dire qu'on est dans un coup d'État. Et quand on est dans un coup d'État, on connaît bien la procédure, on connaît bien les instances régionales ainsi que les instances de l'Union africaine, où on va arriver à ne pas reconnaître un tel régime jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Et donc clairement ici, ce que l'on a, c'est que c'est une espèce de recherche pour essayer de contourner la problématique liée à l'article 220 et qui empêche de pouvoir arriver à ce que l'on change la Constitution ou bien qu'on révise des dispositions qui sont intangibles. Et ils ont trouvé cette formule. Malheureusement, la formule telle qu'elle est trouvée, elle est tout aussi bancale, tout aussi inconstitutionnelle. Mais comme on est dans une stratégie claire qui est l'objectif de pérennisation du pouvoir, et donc on s'agite et on essaie de trouver ce genre de solution. Mais je voudrais quand même ici attirer l'attention sur plusieurs choses. C'est que cette loi, normalement, elle est anticonstitutionnelle, mais bon, je ne doute pas un seul instant que, en disant ça, cela ne va rien changer au niveau de la dynamique qui est en place. Par ailleurs, je voudrais quand même souligner que lorsque l'on parle de référendum, vous savez, le référendum, ce sont des élections. Les élections, ça veut dire qu'il faut des électeurs. Les électeurs, il faut toute la machinerie pour organiser un référendum. Alors que peut-être qu'on va nous raconter encore que oui, on ne sait pas organiser le référendum partout. On va organiser juste une petite partie du Congo et on va adopter une constitution, une nouvelle constitution qui va être d'application en référence en 1964. Ça, c'est tout à fait possible. Je ne doute pas qu'ils vont essayer de faire dans ce sens-là. Néanmoins, je voulais imaginer, M. Guy Batté, ainsi que les auditeurs de Radio Capi, c'est que lorsque l'on aborde cette question-là, et qu'il y a quand même plus ou moins 12 millions de Congolais qui sont sous administration de la rébellion AFC-M23, et que si ces 12 millions, l'AFC-M23 organise aussi un référendum au niveau de la zone qu'ils contrôlent, et qu'ils disent que non, ils refusent le référendum qui est passé du côté de Kinshasa, nous allons arriver à avoir deux ordres constitutionnels, donc nous allons avoir deux États, l'État de Kinshasa et l'État de Goma, je ne sais pas comment il pourrait s'appeler, mais on arriverait à cet état-là. Et nous allons arriver à ce qu'on appelle la consolidation de ce que tous les Congolais craignent, qui est la balkanisation. Or, ouvrir cette porte-là, c'est aussi ouvrir une autre porte. Parce qu'il n'y a pas que les territoires qui sont occupés par la rébellion FCM-23, mais il y a aussi d'autres régions qui ne vont pas participer à cette mascarade d'élection. Parce que quand on vous dit élection, je dois revenir par rapport à la technique électorale, électeurs, il faut identifier les électeurs, les cartes d'électeurs, comme vous le savez, ont posé beaucoup de problèmes, il faut acheminer le matériel, il faut ceci, il faut ça, il faut ça. Or, quand on est dans cette dynamique aussi, on ne peut pas non plus mettre ça en lien avec le calendrier électoral publié par la CENI elle-même, et qui prévoyait justement de pouvoir mettre en place un processus pour pouvoir organiser des élections pour que en 2028, qu'on puisse avoir des élections et y avoir une population de pouvoir pacifique. Or, cette dynamique ici va court-circuiter tout ça, et donc les moyens qui pouvaient être mis en place par rapport à ça vont être consacrés pour cette histoire de changement de constitution. Par ailleurs aussi, il y a tellement de problèmes au Congo, il y a tellement d'urgences, on préfère mettre s'il vous plaît, mettre véritablement le paquet sur cette histoire de loi référendaire et oublier tous les problèmes des Congolais. Ebola, la guerre, la situation sociale, la situation sanitaire, plein de problèmes sur lesquels il y a moyen de mobiliser les Congolais par rapport à ces problèmes, mais on espère toujours, on est en train de pouvoir se mobiliser pour pouvoir changer la Constitution et ainsi pérenniser un pouvoir. Il faut le dire aussi, les indicateurs sont catastrophiques. Vous savez que aujourd'hui, le Congo est le premier pays avec le seuil de pauvreté le plus élevé du monde. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce genre de situation où les Congolais vivent moins de 2 dollars par jour? On est le pire pays du monde où le seuil de pauvreté est le plus élevé au monde, s'il vous plaît. Les Congolais ne savent plus manger, les Congolais ne savent plus se soigner, les Congolais ne savent plus aller à l'école, les Congolais ne savent plus ce qu'ils étaient comme avant. Maintenant, on est pratiquement à la risée au niveau international. Lorsque vous dites que vous êtes Congolais, on vous dit, ah, ok, vous êtes Congolais, c'est Ebola, c'est ceci, c'est la guerre, etc. Et c'est ça l'image de Congolais, et on préfère pérenniser un régime plutôt que de pouvoir arriver à apporter des solutions à toute population congolaise.
Merci, merci professeur. On prend une petite pause en écoutant Mokilie Bongwani de Samangwana dans l'orchestre des festivals des Matizars, et on se retrouve juste après.
Mokili mobongwani e mama, baninga bosala tension, bokoluka moto nanga mpona kufa, boseka bana nanga. Nayoki nyonso ya koloba nalanda te mpona moni nyonso pamba. Et un moussi au moto, ne peut pas mourir. Dawe la Didi, Dawe la Marise, la compétra yo, c'est qu'elle est. Rosalina Motoya, ta et ma maman, compagnie est en bola. Dawe la Didi, Dawe la Marise, la compétra yo.
Mokilie Bongwani de Samangwana dans l'orchestre Les Festivals des Matizars. On revient à l'actualité cette semaine, alors que la riposte contre l'épidémie d'Ebola s'est poursuivie en Ituri. Un grave incident sécuritaire est survenu mardi 9 juin dans le groupement de Tchéré, en zone de santé des Rwampara. Une équipe de surveillance est venue enquêter sur un cas suspect, a été violemment prise à partie par les habitants du village de Tutu. Un médecin a été ligoté, séquestré et menacé de mort avant d'être finalement secouru par les forces de sécurité. Selon les témoignages des membres de l'équipe, ils menaient une investigation autour d'un cas suspect d'Ebola lorsqu'ils ont été attaqués par plusieurs habitants armés de machettes et de pierres. Pris de panique, une partie de l'équipe a réussi à s'enfuir pour donner l'alerte. Le médecin chargé d'effectuer les prélèvements n'a pas eu cette chance. Il a été capturé, ligoté et retenu contre son gré par ses agresseurs. L'intervention rapide des services de sécurité a permis d'éviter le pire et d'obtenir sa libération. Réagissant à cet incident, le chef du groupement des Tchéré, Zamundu Batagoura, a fermement condamné cette attaque et a appelé la population à soutenir les efforts de riposte sanitaire. Cette agression intervient dans un climat tendu, marqué par la persistance des fausses informations autour de l'épidémie d'Ebola. Ces campagnes de désinformation alimentent la méfiance de certaines communautés vis-à-vis du personnel médical et des équipes de riposte. Face à cette situation préoccupante, la procureure générale est près de la cour d'appel de l'Ituri et d'Oxymaswama a annoncé des mesures fermes. Elle a instruit les magistrats et les services compétents de poursuivre toute personne impliquée dans la diffusion des fausses informations ou dans des actes visant à entraver la riposte sanitaire. Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous avez souhaité nous parler justement de la riposte contre la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC. On vous écoute.
Merci en tout cas de pouvoir avoir accepté ce sujet qui est pour moi très très important et qui met en exergue et en lumière vraiment des faits et qui nous interpelle tous et qui nous oblige à pouvoir essayer de pouvoir trouver des solutions et mobiliser et alerter au niveau international pour que les choses changent. La province de l'Ituri est une province très meurtrie qui a connu beaucoup de problèmes, beaucoup d'épidémies, et qui a un contexte carrément de guerre avec une multiplicité de groupes armés, et ces groupes armés qui sévissent et qui font des victimes, et parmi les victimes, c'est uniquement, essentiellement la société civile et les populations civiles qui sont les premières victimes. Il suffit simplement de lire le nombre de victimes que l'on recense, tous les jours des meurtres, on égorge des gens, etc. Et à côté de ça, vous avez la présence de l'armée congolaise ainsi que de l'armée ougandaise qui sont censés mettre de l'ordre dans cette partie de la RDC. Malheureusement, il n'y a pas de résultats concrets pour améliorer la situation de la population. Et à cela, vous ajoutez l'état de siège qui fait en sorte que tous les systèmes politiques, et ça veut dire de revendication des populations qui peuvent faire valoir ce qui ne va pas, faire en sorte qu'avec un état de siège, c'est plutôt une administration militaire qui est en place et que les populations n'ont pas nécessairement de la place pour essayer de porter leurs revendications. Et on est dans une espèce d'état de non-droit et c'est dans un contexte de ce sens, même si la procureure, comme vous venez de le dire, a instruit les magistrats, mais je doute très 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 fort que ces magistrats seront en mesure de pouvoir rendre justice et de pouvoir arriver à calmer la situation. Et la conséquence par rapport à une telle situation, vous avez l'apparition de ces virus, de cette 17e épidémie, virus Ebola, la branche Boudibungu, et qui n'a pas de vaccin, et qui arrive aussi comme pour punir encore cette population qui est déjà suffisamment meurtrie. Et ce virus arrive dans ce contexte que je viens de décrire, où on a les déplacements des populations, où on a le fait qu'il y ait une exploitation minière assez importante de mines d'or vers essentiellement l'Ouganda, et fait en sorte que nous avons là un terroir, on va dire, vraiment fertile pour la prolifération de cette épidémie. Et à cela aussi, c'est que le système de santé tel que nous le connaissons, le système de santé, malheureusement, il est déficient. Il est déficient pourquoi ? Par manque de moyens. Le budget de l'État au niveau de la santé a été réduit pour augmenter le budget des forces armées, avec les conséquences que nous connaissons tous, c'est que les forces armées congolaises ne sont pas en mesure de pouvoir sécuriser cette zone. Au niveau de la santé, il n'y a pas d'équipement. Les médecins sont payés. On a une situation catastrophique des différentes zones de santé, et cette catastrophe des différentes zones de santé, dans ce contexte-là, fait en sorte qu'on arrive à avoir le contexte que nous connaissons. La preuve par rapport à ce que je t'ai dit par rapport au système de santé, il a fallu attendre le 15 mai pour que le CDC, donc l'organe de l'Union africaine, déclare le virus Ebola après avoir dénombré plus d'une centaine de morts. Ce qui veut dire que le virus Ebola était déjà présent dans cette zone, mais comme les structures de santé sont déficientes, eh ben, on a su que c'était Ebola plusieurs mois après que ce virus soit apparu. Et dans un tel contexte, oui, on a une mobilisation à un niveau international pour venir en aide à cette population. Malheureusement, l'aide internationale ne peut être efficace que si elle est basée sur un système local qui fonctionne. Or, le système local ne fonctionne pas. Et donc, l'aide internationale va être une espèce de sparadrap sur une plaie béante, donc on n'aura pas des résultats.
Merci, Madame Faïda Mwangiloua. Vous êtes membre de la société civile, vous êtes experte en genre. La procureure générale, on l'a suivi près de la cour d'appel de l'Ituri, réagit en annonçant des mesures fermes. Vous pensez que seule la répression pourrait suffire pour amener les gens à prendre conscience de la menace que représente cette maladie, ou il faut plutôt privilégier d'autres approches?
Moi, je crois que les deux à la fois, les deux approches à la fois, la répression bien sûr, parce que chez nous on a pris les habitudes de communiquer sur n'importe quoi, même lorsqu'on n'a pas d'éléments, on communique. Mais aussi, il y a une dimension que nous avons oubliée. Une telle épidémie exige d'abord la mobilisation communautaire. Donc la participation citoyenne dans la sensibilisation, dans la conscientisation par rapport au danger. Mais malheureusement, comme ce que venait de dire mon prédécesseur, il n'y a pas assez de moyens. Tout le monde attend l'aide financière extérieure. Au niveau interne, il n'y a pas de moyens. Et lorsque la population ne participe pas à la sensibilisation, à la conscientisation, c'est comme ça qu'il y a des déviations comme ce qui s'est passé à Toutou, ce qui s'est passé à Thiers. Les gens pensent que quand il y a une maladie, vous allez à l'hôpital et directement, on va vous prendre comme victime ou souffrant d'Ebola et tout. Et les gens restent à la maison. Or, ça constitue un grand danger. On peut ne pas l'accepter, mais il faut savoir une réalité qu'à l'Est, les populations ont appris à se prendre en charge. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ONG qui fonctionnent sans appui des partenaires. Dès qu'il y a un problème, les gens commencent à travailler. Ce réflexe-là doit se vivre à travers l'ensemble du pays. Quand il y a un problème qui surgit au niveau de la communauté, la population se met debout et commence à travailler. Donc, à un certain moment, lorsqu'on ne prend pas conscience, c'est nous, population, qui sommes encore victimes. Donc, moi, je crois qu'il y a lieu de continuer à soutenir les organisations communautaires pour continuer à sensibiliser, pour trouver des solutions intermédiaires et voir comment soutenir la population à faire face à cette épidémie pour qu'au moins on puisse en finir.
Merci Charles Kipingani, journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant à Matadi dans la province du Congo central. Qu'est-ce qui peut expliquer à votre avis la persistance de la désinformation et de la rumeur alors que on voit les gens tomber malades, les gens mourir, les gens sont en train d'être enterrés, mais en dépit de cela, il y a cette désinformation, il y a cette rumeur qui est en train, n'est-ce pas, d'influer sur les comportements de la population?
Bon, d'abord, la désinformation est une question de la gestion de l'espace médiatique ou sinon du comportement des réseaux sociaux à travers nos communautés. Nous savons que notre liberté d'expression n'est pas bien encadrée. Donc c'est tout à fait normal qu'on vive des scènes comme ça. Vous le savez que dans tous les dossiers, et même les dossiers de l'État ne font que tweeter tous les jours. Donc il y a des désinformations à tous les niveaux de vie. Mais pour les cas d'espèce, moi j'aimerais situer l'épidémie ici en amont et en aval. En amont, il faut commencer par analyser toutes ces épidémies qui incluent la précarité des conditions d'hygiène par la gestion de l'environnement. Comment nous gérons notre environnement pour que nous parlions toujours des épidémies, déjà il faut toujours laver les mains qu'on sort. Et voir comment l'air que nous respirons, l'accès à l'eau potable, qui pose des problèmes, même quand on dit qu'il faut peut-être que ces gens lavent les mains tous les jours, il y a des gens qui n'ont pas l'accès à l'eau potable.
Et donc, vous voulez dire par là que les conditions étaient réunies pour que cette maladie puisse se manifester une fois de plus?
Bien sûr que oui. Parce qu'on a, qu'est-ce que nous faisons pour anticiper toutes ces maladies? Passons seulement par la malaria. Nous mobilisons des fonds pour acheter des moustiquaires alors que notre environnement est sale. Donc, les moustiques vous piquent déjà à la véranda. Et donc, déjà la manière dont nous gérons notre environnement
Il est tout à fait normal que nous soyons la cible de toutes ces épidémies que l'on pouvait éviter pour autant.
Et par rapport à la riposte, donc, comment vous jugez la manière dont la riposte est faite?
Bon, le gouvernement, à mon avis, fournit des efforts. Il n'est pas resté muet par rapport aux cris d'alarme, des détresses de la population. Les efforts du gouvernement sont quand même ressentis, bien qu'ils soient faibles, comme a dit madame de la société civile. Mais au moins, les efforts sont quand même déployés. Mais je dis qu'au lieu que nous puissions tout le temps déployer des efforts, autant prévenir que guérir. Et prévenir signifie revenir à la gestion efficace de l'environnement.
Merci beaucoup, cher Kipingani. Chères auditrices, chers auditeurs, l'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le vendredi 5 juin dernier, le monde musical congolais a perdu un de ses meilleurs artistes en la personne de Pascal Poba, l'un des auteurs-compositeurs et paroliers les plus renommés du paysage musical congolais. Pascal Poba a à son actif plusieurs chansons qui ont été interprétées par plusieurs artistes et musiciens. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'un de ses classiques intitulé « Mwanapo », connu sous le nom des Francs Congolais, et on revient juste après.
Thank you.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet de l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant organisation du référendum en RDC. Nous avons également analysé la riposte contre la 17e épidémie de la maladie à virus d'Ebola en RDC. Participe à cette émission Charles Kipingani, il est journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant à Matadi dans la province du Congo central. Madame Faïda Mangula, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'université de Liège en Belgique. À Kinshasa, les embouteillages font désormais partie du quotidien des 20 millions d'habitants. Chaque jour, la circulation se transforme en véritable casse-tête sur les grandes artères de la capitale. Des usagers passent jusqu'à 3 à 5 heures de temps dans des bouchons avec des conséquences lourdes, stress, épuisement, perte de temps, pertes économiques, retards répétés, rendez-vous manqués. Au-delà de l'impact individuel, cette congestion freine la productivité, dégrade la qualité de vie et affecte l'image de la ville. Certains experts estiment même que les pertes liées aux embouteillages se chiffrent à plus de 3 milliards de dollars par an. Malgré les diverses mesures prises, notamment la construction des sauts de moutons, la circulation alternée, les contrôles des documents, la situation ne s'améliore toujours pas. Chaque jour, les cortèges officiels avec sirènes, les taxis, motos et les tricycles tentent de contourner les blocages ou de forcer les passages dans un chaos indescriptible. Madame Faïda Mangiloua, vous avez souhaité nous parler de cette problématique des embouteillages à Kinshasa et dans certaines villes de la RDC. On vous écoute.
Merci beaucoup. La question des embouteillages devient une question aussi humiliante, mais c'est vraiment, je peux dire que nous sommes en train de vivre des situations catastrophiques avec les embouteillages. Et en principe, au niveau politique, ça devrait constituer une urgence, parce que ça a des conséquences à la fois sanitaire, psychologique, économique, et ainsi de suite. Pourquoi j'ai dit sanitaire? Parce que lorsqu'une personne doit se réveiller tôt matin, à 3h, 4h, je vous dis, monsieur Guy Maté, et je m'adresse à tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi, il y a des gens qui quittent leur maison dans cette ville à 3h du matin pour venir au travail. Et quand ils arrivent au travail, vers 5h, on n'a pas encore ouvert, il se trouve un petit repos dans la voiture, ou peut-être à côté des sentinelles s'il est piéton. Et après, maintenant, lorsqu'il sera 7h30, il se présente au travail. Voilà le calvaire. De deux, sur le plan toujours au niveau de la destruction des ressources humaines, les gens quittent, vous l'avez dit en introduisant ce sujet, 3h à 4h, le temps c'est de l'argent. Qu'est-ce que cette personne va concevoir une fois au bureau? Si c'est un technocrate, on lui a demandé un document qu'il doit préparer. Après 3h, 4h de route, il se présente devant la machine. Je vous assure, quand vous lisez un document préparé dans la fatigue et un document préparé à temps normal, il y a une différence. Sur le plan sanitaire, nous perdons beaucoup de gens. Lorsqu'une personne pique une crise, le temps de l'acheminer à l'hôpital, non, ça prend beaucoup de temps et on vous dit non, il est arrivé à l'hôpital, c'était déjà un corps sans vie. Nous vivons ces situations. Nous vivons des situations d'accident. Les gens n'en parlent pas, mais c'est catastrophique. Quelqu'un est parti de chez lui à la maison, il va peut-être à l'église ou il va au travail, mais il réalise qu'il ne va pas arriver à cause des embouteillages. Il quitte la voiture, il prend la moto, il prend le pied, il est cogné ou il a fait un accident, il perd la vie. Mais tout cela devrait constituer une priorité. Vous avez parlé de la construction des seaux de moutons. Je vous assure, je ne parle jamais de quelque chose que je n'ai pas vécu. Un jour ici, au niveau des seaux de moutons, des seaux cimates, je vis un monsieur, un usager, un conducteur, en train de faire de manœuvres à l'entrée des seaux de moutons. Donc, il a commencé à monter.
Vraiment.
Et il réalise, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il tourne et commence. On s'est arrêté, moi j'ai dit, nous sommes où, mon Dieu? Donc, à principe, tu n'es pas seul. Vous êtes peut-être avec des officiels ou quoi, mais quelqu'un qui pose un tel acte, un tel incivique, mais il termine ça, son aventure et il roule et il continue. Et vous êtes là en train de patienter. Donc, à un certain moment, on pensait qu'avec des taxes et tout, on ne verra plus les gens qui sont... Non, à ce moment-là, la circulation était meilleure. Mais quelques jours après, même les usagers me disaient, mais ils vont se fatiguer. Na Congo et Zalakabo et Bazui et Loko et Moma Batiki. Et effectivement, après, on a vu, non, ça c'est... Et les gens ont repris. Donc, ces derniers temps, si j'ai voulu parler de ces sujets, parce que je suis parmi les personnes qui travaillent et qui quittent leur maison pour aller au travail.
Parmi les victimes des
embouteillages. Donc, je suis victime des embouteillages et je vois des citoyens à la sortie de travail qui marchent à pied comme s'ils sortaient du stade de martyrs après un match de football. On se dit, mon Dieu, c'est quel spectacle. C'est des gens qui ne savent plus quoi faire, comment c'est le pied de la ville jusqu'à Pompage, de la ville jusqu'à Kitambo Magasin, de la ville jusqu'à à l'Assemblée, au Parlement. Donc voilà les citoyens. Comment tu peux trouver la santé? Je suis en train de dire, nous sommes aussi en train de perdre les ressources humaines en termes d'espères qui quittent la RDC. Pas parce qu'il fuit la guerre, mais il fuit les conditions de vie de cette ville. Je connais un monsieur qui vivait au Mali, je l'ai croisé là-bas, un technocrate sur les questions humanitaires. Je lui ai dit, mon frère, tu as fait plus de 20 ans à l'extérieur. Tu ne peux pas venir t'installer à Kinshasa. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de projets. Et il était déjà sur cette voie, il est arrivé dans cette ville. Il a acheté une concession vers plateau de Bateke, il a pris une maison, un appartement à côté de la RTNC à $700, deux chambres. Mais aujourd'hui là, trouver une maison de location dans les communes environnantes de la Gombe, non, il faut avoir $2000, 1500. Ce monsieur s'est installé. Mais la vie à Kinshasa, il a dit, je ne saurai pas. Il a tout vendu, il a perdu, il est allé s'installer où? À Bujumbura. Mais dans une de mes missions à Bujumbura, ils m'ont resté à la maison, en famille. Je vous dis, il habite une maison en plein centre-ville à $400. Villa, une villa. Et il vous dit, avec $100, 150, tu peux faire la provision pour un mois. Tu peux rouler. Ici, maintenant, c'est mon épouse qui amène les enfants à l'école. Alors qu'à Kinshasa, c'est moi-même qui étais obligé d'amener les enfants à l'école. C'est pour vous dire que nous vivons une situation catastrophique qui devrait vraiment faire l'urgence. J'aimerais avoir un député qui parle du code de la route. Où est notre code de la route? Voilà des questions qui devraient intéresser nos parlementaires pour essayer d'atténuer la souffrance de la population.
Je sens comment vous êtes affecté par cette situation. Charles Kipingani, le Congo central est aussi affecté par ces embouteillages, hein, surtout l'axe Matadi-Kinshasa. Alors là, qu'est-ce que vous qui êtes à Matadi, qui êtes au Congo central, qu'est-ce que vous préconisez pour essayer de régler ces problèmes dans cette province?
Merci Guy Maté. J'ai senti la douleur quand Madame Faïda parlait et j'ai senti ce que moi j'ai toujours ressenti lorsque je suis à Kinshasa. Elle a parlé de Kinshasa où nous nous rendons tous à tout moment, mais quand vous me posez la question du Congo central, la situation est encore difficile. L'autre fois, c'est le prof Taladio qui m'a dit que sa femme qui quittait ils peinent pour aller, pour se rendre à Ikambanzangungu, arriver avant que lui qui devait quitter Ipen pour arriver au centre-ville. Vous vous imaginez? Nous avons beaucoup crié pour que les chemins de fer soient réhabilités pour les cas du Congo central. Mais ce sont plus les Libanais qui ont pris le marché des transports et c'est tous les jours, je pèse mes mots, c'est chaque jour que vous avez au moins des véhicules qui sont renversés sur la route numéro 1, nationale numéro 1. Ce sont les véhicules remorques qui créent des problèmes tous les jours. Lorsqu'on a pensé réhabiliter les trains, on pensait que c'était une solution salvatrice. Mais malheureusement, même les trains qui devaient transporter les personnes est en train de patiner par rapport aux besoins. Donc les gens sont toujours emportés par des véhicules. Mais cette route-là ne mérite même pas être appelée route nationale. C'est peut-être une route d'une avenue. Il faut voir, parce que une route d'une seule bande. Elle est restée dans la même configuration que lorsque Kinshasa avait peut-être 40 millions d'habitants ou 50 millions d'habitants. Et où on n'avait pas encore cet engouement qu'on a dans toutes nos villes. On est resté avec les mêmes virages, avec des véhicules qui roulent à vive allure, si tu le fais remorque. Ils n'ont pitié de rien, de personne. Donc c'est un véritable problème. Vous imaginez que quelqu'un peut arriver à Matadi à 5 heures, à la porte de Matadi, si vous sortez pour aller venir vers chez moi au bas-fleuve, pour sortir de Matadi autour de 15 heures, même 18 heures. Donc vous pouvez passer toute une journée, vous n'avez pas pu traverser Matadi. Mais moi j'aimerais parfois soulever des points, parce que quand nous dénonçons un problème, il faille que nous puissions aussi déceler, non seulement les failles, mais aussi proposer des pistes et des solutions, ou sinon parler des faits qui nous ont amenés à ce niveau-là. D'abord, sur le plan transport, sur la nationale numéro 1, c'est le fait d'avoir accepté que les Libanais achètent 1000 véhicules par entreprise, 500 véhicules par entreprise, et laisser le train ne pas faire son travail. Comme ça se faisait à l'époque, le train marchandises qui pouvait transporter les marchandises de Matadi à Kinshasa. C'est déjà ça un problème. Mais au-delà de ça, il y a l'exode rural. Il y a, bien entendu, la mauvaise gestion de la circulation routière. Mais si nous parlons de cet exode rural, nous avons l'histoire en face de nous. J'ai même de réserve de vivre à Matadi, ma ville, où j'ai plus vécu, parce que même Matadi est devenu saturé. Tout ça, c'est l'exode rural. Qu'est-ce que l'État fait jusqu'à ce jour pour réguler cette question d'exode rural? Pour la ville de Kinshasa, il faut délocaliser certains services, parce que la ville de Kinshasa est tellement encombrée. On a mis tout là-bas, toutes les institutions, le Parlement, les ambassades et tout ça. Finalement, c'est Kinshasa qui nourrit le Congo. Et c'est Kinshasa qui est la ville agitée, enviée de tout le monde, même de celui qui est au village.
Merci, on a compris. Professeur Bokabamba, les embouteillages à Kinshasa ainsi que dans certaines villes de la RDC, est-ce un défi insurmontable? Sinon, c'est quoi la solution?
Merci en tout cas pour la question. C'est que, en fait, on est dans un système d'absence d'État, absence de politique publique. C'est que normalement, dans tout pays organisé, lorsque l'on a effectivement toute une série de problèmes en amont par rapport aux embouteillages, on essaie d'agir en amont pour essayer de solutionner les différents problèmes qui se posent dans la ville de Kinshasa et pas qu'à Kinshasa, dans beaucoup d'autres villes. C'est une absence d'État, une absence de politique, et lorsqu'on n'a pas d'absence, on a l'absence d'État. Et ce sont un des indicateurs qui montrent que l'État n'est pas gouverné et que l'on est dans un système où de laisser aller, où on a les conséquences que nous connaissons, comme on l'a vu déjà par rapport à tous les sujets qui ont été mis sur la table, qui illustrent véritablement, clairement, ce que nous sommes dans un État qui est en train d'être en déliquescence. Quand on dit déliquescence, c'est encore un mot qui est assez gentil. On pourrait dire qu'on est dans une fiction d'État. Et madame, quand elle a expliqué par rapport aux gens qui retournent en arrière, etc., etc., ça veut dire qu'ils peuvent le faire parce qu'il n'y a pas de règles. Et comme il n'y a pas de règles, quelqu'un n'est pas en mesure de pouvoir faire appliquer les règles qui existent. Donc nous sommes dans une fiction d'État. Or, si on veut essayer d'apporter des solutions, il faudrait d'abord organiser l'État. Il faudrait d'abord que chacun ait ses missions. Qui contrôle, qui sait, qui est compétent pour la circulation routière, qui est compétent, par exemple, pour qui concerne les routes. Là, vous allez avoir toute une série de réponses et que ce n'est pas du tout clair. Et comme ce n'est pas du tout clair, nous persistons à cette situation. C'est la même chose pour la question des poubelles, la saleté. la santé, que nous venons d'évoquer, d'autres préoccupations. Et donc, tant qu'il n'y aura pas un État congolais qui fonctionne, eh ben, nous allons continuer à avoir ce que nous sommes en train de vivre et que ça ne sera pas terminé si on n'arrive pas à organiser et que les choses vont continuer à s'empirer. Et quand les choses continuent à s'empirer, et on va arriver à une situation où cette histoire d'embouteillage crée des problèmes de santé, crée des problèmes économiques, crée des problèmes au niveau même de la gestion des problèmes familiaux, etc., etc. Et bien, quand la population trouve ça normal, et alors là, on n'est plus dans un État, donc nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une fiction d'État. Malheureusement, c'est le cas qu'on est en train de vivre en République démocratique du Congo, et on trouve ça normal.
Merci.
Malheureusement.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Monano de Pepe Kale dans l'Empire Bakuba, et on se retrouve juste après.
Namoni lokola noto, maswa matiki libongo, natuni fe na bande ko bangai, baby singai to tiki kini malepo. Natambola lopoko mpona pokola elamba, napesa mwasi na bana mbote. Kini natiki manakanga na kokende. Motala bande konatika mwakala na kei pili pili libende manakanga na kokende. Balodo Yemol Omalokoko Namoni lokola ndoto Maswana tikili bongo Natuni pena bande kobangai Baebi singa totiki kini maleko Natambola lopako mpona popola elama Na pesa mwasi na bana mbote Kini natiki manakanga na kokende Kotala kulito na tita imwa Na kei pili pili libende Manakanga na kokende Ona noaya maswa Kitebe konana Kisa osena koko Ala sante Tobengi wenzi seki
Panga, panga, panga
Kobe moya bakuba Mwana mpire yosela ngana Na koyama Kolito epuya Ona noya bakuba Itebe konana Kisa osena koko Ala sante Tobengi wenzi seki
Panga, papa, ikpere mboi
C'était Monano de Pepe Kale dans l'orchestre Empire Bakuba. Là, Pepe Kale nous relate une certaine période où les transports multimodales étaient une réalité dans ces pays et ça peut aussi constituer une des solutions, n'est-ce pas, à ces phénomènes des embouteillages. Je rappelle que nous avons dans cette émission Charles Kipingani, il est journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant à Matadi, dans la province du Congo central. Madame Faïda Mwangilwa, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Bob Kabamba, il est politologue et professeur à l'université de Liège en Belgique. Dans un communiqué conjoint publié mercredi 13 mai, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO et les Programmes Alimentaires Mondiaux PAM indiquent que plus de 26,5 millions de Congolais peinent à satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Parmi eux, précisent ces deux agences onusiennes, plus de 3,6 millions de personnes se trouvent en situation d'urgence, confrontées à des pénuries alimentaires critiques qui menacent directement leur survie en l'absence d'une assistance rapide. Dans ces documents, la FAO et les PAM soulignent que l'aide humanitaire en RDC reste largement insuffisante face à l'ampleur des besoins. Sans investissement urgent et durable, la crise risque de s'aggraver davantage avec des conséquences potentiellement irréversibles pour des millions de personnes, alerte-t-il. En 2026, la FAO indique soutenir déjà 55 500 familles affectées par la crise dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika grâce à une enveloppe de 10 millions de dollars américains issus du fonds humanitaire pour la RDC. Ce soutien comprend la distribution de semences, d'outils et d'intrants agricoles ainsi que des transferts monétaires lorsque cela est possible. L'objectif est d'aider les ménages à relancer leur production alimentaire, à préserver leurs moyens de subsistance et à réduire leur dépendance à l'aide humanitaire. Toutefois, la FAO estime avoir besoin de 163 millions de dollars supplémentaires pour intensifier ce soutien agricole vital avant que les périodes critiques des semis ne soient compromises. Charles Kipingani, vous avez souhaité nous parler de cette actualité en la formulant ainsi, RDC, la revanche du sort sur le sous-sol, encore utopique avec une agriculture non mécanisée. On vous écoute, Charles Kipingani.
Merci une fois de plus, Guy Maté. Je vous dis que je suis en train d'intervenir à partir de Lukulu à mon territoire d'origine, qui a été autrefois appelé les territoires les plus industrialisés de l'Afrique centrale. Mais après vérification, nous avons compris que c'était les territoires les plus industrialisés de toute l'Afrique. Parce qu'au moins dans chaque secteur, le territoire compte 5 secteurs, dans chaque secteur, on en trouvait au moins 3 sociétés agricole. Et cela a fait que le port de Boma, qui fait qu'on appelle Boma ville Ukraine, parce que son port ne fonctionne plus, le port de Boma n'a pas été conçu pour accueillir des marchandises diverses, mais c'était conçu pour exporter les produits agricoles qui provenaient des Mayombe, qui étaient les greniers agricoles. Et aujourd'hui, on est incapable d'exporter même des conteneurs de café parce que tout est en berne. Les champs qu'on nous exécute tout le temps par rapport à cette revanche est resté une utopie. L'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui met en lumière les incohérences entre la théorie de cette revanche et les réalités vécues quotidiennement au vu de la population. Même dans les villages, ils vivent encore des produits importés, ce qui est curieux. Ils achètent du riz qui vient de la Chine, ils achètent des oignons qui viennent d'ailleurs. Vous voyez des forêts en train de chômer. Il y a beaucoup de mots qui rongent aujourd'hui notre système agricole qui fait qu'une agriculture qui n'est pas, parce que lorsque vous posez la question aux gens, pourquoi vous ne voulez pas vous investir, ils vous disent « Milangaiza passe ». Alors que l'État tout le temps vous parle de cette revanche ou des efforts que le gouvernement aurait fournis pour relever les défis de ces secteurs prioritaires qui restent même la dernière cartouche du Congo qui ne pose d'ailleurs aucun problème. Nous avons suffisamment de terres arabes. Nous avons suffisamment de zones, nous avons suffisamment d'espace où on peut mettre l'élevage et qu'on sort. Mais l'État ne s'est jamais investi de manière un peu plus réaliste pour que ce secteur puisse se respirer tel qu'on est en train de vouloir vanter ça. Vous imaginez, comme je vous ai dit qu'ici, dans les territoires, et comme dans d'autres territoires, on continue encore à acheter des produits qu'ils pouvaient pourtant planter dans leur village, sans compter les vivres frais et les produits surgelés, alors que nous avons suffisamment aussi des espaces pour pratiquer l'élevage. Donc c'est ce qui m'a poussé de penser à interpeller un peu ces gouvernements s'ils sont conscients, parce que nous sommes à la veille de la journée internationale des coopératives où on a mis l'accent sur la coopérative et cette activité pour le Congo central va se tenir ici à Lukulu, là où je me retrouve à cet instant-ci. Je me dis, mais ces coopératives agricoles ont quel avenir? Ils bénéficient de quel niveau d'accompagnement de l'État pour exister réellement en tant qu'agriculteurs? Les efforts sont fournis, mais malgré ces efforts-là, vous avez des gens qui ne savent pas planter et qui vont encore voler. Ce qui ajoute un autre problème. Or, si l'État s'engageait dans ce secteur, je crois qu'on aurait encadré beaucoup de maux qui rongent cette agriculture et ces gens-là qui chôment tous les jours seraient employés. À Lukulu, aujourd'hui, on a une plateforme qui essaie un peu d'évoluer avec pratiquement des béquilles parce qu'elle est presque en faillite, puisque les mesures d'encadrement n'ont pas été mises en place pour fournir à cette société de produits agricoles. Le pauvre paysan qui plante avec beaucoup de difficultés, sans produits nécessaires, sans moyens nécessaires, ils sont limités pour faire fonctionner cette grande usine qu'on a implantée, qui a coûté pourtant des millions à la République. Alors, est-ce que nous sommes conséquents de toute cette réalité pour que nous puissions réellement parler de la revanche, c'est-à-dire qu'on sente que nos terres sont réellement exploitées et qu'elles donnent de la nourriture aux Congolais et que nous parvenions à ce qu'on appelle autosuffisance alimentaire, ce qui est encore loin d'être la réalité. Nos députés qui sont élus, on leur avait demandé à l'époque, je me souviens, que chacun devait avoir un champ dans son village. Mais qu'est-ce qu'ils plantent ici? Ils plantent les divisions, ils créent des camps, il faut qu'on chante pour eux, il faut qu'on danse pour eux, il faut qu'il y ait des comités de soutien, des amis d'un tel, parce qu'ils doivent les soutenir lors de la prochaine élection. Et ils n'ont aucune stratégie d'envergure pour pousser cette population électrice à s'approprier de valeurs qui sont autour d'elles, c'est-à-dire pour le cas de nos territoires, de nos 145 territoires, qui sont cultivables, ils devaient quand même pousser ces populations à l'agriculture en montrant l'exemple des maîtres des champs, mais ce qui n'est pas le cas. Le gouvernement qui a été débalancé avec à travers ses services d'agriculture, développement rural, devait tirer les leçons pour s'impliquer résolument et que les efforts consentis pour donner le résultat qu'attend la population. Vous avez évoqué les chiffres des FAO. Et peut-être qu'on pouvait aller au-delà, peut-être que ce sont des estimations. Mais je vous dis que moi, quand je fréquente le village, vous sentez, vous lisez la pauvreté de la population qui a pourtant de la terre qu'il pouvait cultiver.
Donc la revanche, n'est-ce pas, du sous-sol sous les sols est resté un simple slogan, n'est-ce pas?
Non, c'est un simple slogan, c'est encore théorique.
Merci.
Mais il faudrait que les gouvernants puissent mettre des moyens, au-delà des moyens, faire le suivi. Parce que les gens qui viennent avec des moyens, parfois, ils ne sont pas honnêtes.
Merci, Charles Kipingani. Madame Faïda Mondiloa, justement, hein, Charles Kipingani parle depuis Lukula, dans la province du Congo central. Quand vous y arrivez, vous allez voir des champs, des vastes champs, des plantations à perte de vue. Et on dit dans ces pays qu'il y a 80%, n'est-ce pas, des terres arables. Mais en dépit de tout ça, on a du mal à produire chez nous. On ne fait que dépendre, n'est-ce pas, des importations. Comment vous expliquez cela?
Vous savez, Guy, lorsqu'on se comporte dans son propre pays comme mercenaire, ça devient très dangereux. Au lieu d'encourager les agriculteurs, nous les observons comme ça. Il y a deux raisons fondamentales autour de cette question. Mm-hmm. Lorsque j'ai exploité les rapports des FAO et PAM, j'ai eu très mal. Deux raisons. La première raison, c'est d'abord les conflits armés. 30 ans. Quand je vois par exemple les provinces du Kivu, c'est là que je suis né. Je vous assure, mon premier travail, c'était en province du Nord Kivu en 94. Vous savez qu'en 94, c'était l'entrée des réfugiés rwandais. J'étais dans un programme où on était partenaire de PAM et on allait sur terrain. La population n'avait pas besoin d'aide humanitaire.
En 94,
la population, je vous dis, vous arriviez dans un village et dans un champ vers Kichanga, Masisi. Ce sont des femmes qui vous disaient, maman, venez prendre des choux.
Donc, il y avait l'autosuffisance alimentaire.
L'autosuffisance, parce que si vous ne prenez pas, ça va pourrir. Et moi, je ne veux pas que ça puisse pourrir. Vous allez manger avec les enfants, vous allez manger, consommer, parce qu'on avait des chips. Et on prenait cela, des choux, des patates douces. Et mais je me rappelle, une année après, moi-même aussi, j'avais acheté un lopé de terre au niveau des sacs et j'ai commencé à cultiver les patates douces. Je vous dis, tu arrivais chez moi, j'ai distribué aux amis. Je n'avais même pas besoin de les vendre parce que personne ne va acheter. Mais la deuxième raison, c'est la corruption. Tout cela, c'est la corruption. Les gens préfèrent quand il y a l'aide à apporter à la population. Ils préfèrent, moi je dis toujours, vous voulez emmagasiner de l'argent. Nous connaissons des gens qui avaient eu beaucoup d'argent dans ce pays, mais sont devenus minables. L'argent de l'État, quand vous le consommez, quand vous le détournez, ça va revenir vers la population parce que après 10 ans, 20 ans, on ne va pas reconnaître ces gens. Donc, je suis en train de dire qu'il y a lieu que nous puissions voir où sont nos priorités. Nous, nous devrons, comme Congolais et Congolaises, faire manger les Africains. Parce que nous avons 80% des terres arabes. Donc, on n'est pas des gens qui doivent, même ici à Kinshasa, allez sur nos routes, vous trouvez des enfants malnutris, des enfants qui ne sont pas accompagnés, qui circulent ici et là, qu'on appelle communément les enfants de la rue. Ils fuient chez eux à cause de manque de nourriture. Aucun enfant ne peut venir se mettre sur la route en train de mendier, sachant que chez nous, il y a à manger. Donc il y a des choses fondamentales, il y a des besoins fondamentaux pour une population. Et je crois qu'il y a lieu de voir les choses en réalité. Et merci beaucoup notre frère qui vit à Lukula. J'apprécie toujours, lorsque je suis sur ce terrain, je trouve des jeunes gens qui sont dans les villages, qui sont partout. Moi je les apprécie parce que c'est là qu'il faut beaucoup travailler au lieu de venir perdre son temps à Kinshasa et commencer à mendier.
Merci, professeur Bob Kabamba. Nous allons terminer cette émission avec vous. C'est quoi les pistes de solutions pour, n'est-ce pas, promouvoir l'agriculture afin que cela puisse nous mettre à l'abri de l'aide humanitaire et puis de la famine qui est en train de menacer la grande majorité de la population congolaise? Professeur, voilà, apparemment il n'est plus là et c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Faïda Mwangiloa, Monsieur Charles Kipingani et Professeur Bob Kabamba. Merci aussi à Pierre Diassinois qui était à la technique avec la participation de Dieudonné Nyangasa, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Je vis avec le PDG, une composition de Franco Ramo Makadi, et on se retrouve le samedi prochain.
Kasi na butu na yo kipongite na komi komi tu na saki ya solo. Ni solo meme na kinga ina komi kobanga saki pe balo kinga iteo. Suho nini yo kosale langai, toka bona kala yo siyo bala. Na moti nongana ya baka yo na kanisaka, oya kase kota la mwana. Lelo luke ningai minondoe, olobito zonga la dodo na kamwe. Na zola kandeo kipeo, babala na kala na koma na PDG.
Dodo, aussi au bala, au tigana na moana, si vous avez ouvert sur ma camo, vous évitez la chine à commande à PDG. Oh, Dodo. Na bonne soukoson à Sima. Oh.
Lobito solo la kimingi na pompa la simanga na keiko la la a. Kasi na butu na yo kipongite na komi komi tu na soki ya solo. Ni solo meme la kinga ina komi kopanga soki peba la kinga iteo. Zuo nini yo kosale langai, toka bwana kala yo siyo bala. Na motindo ngana ya mbaka yo na kanisaka, oya kase kota la mwana. Lelo luke linga imi ndondoe, lobito zonga na dodo na kamwe. Nazala kandeo kipeo, babala ngakala na koma na PDG. Lingue siri makambo ele kila semisa tamo kenzo toe no gina kufa pona yo na pekisa kionze la wanda e poliotika holandi kaka na juje kaka yo linga kanga iteo tovani bolingo ya presence dodo papa makambo matondi na motema e nakamati decision ko. Bolingo na maina miso mama. Oh, dodo papa. Bolingo ezalaki na motema e soki na dekuraje e. Pote ezalaki e pana yo.
Oh,